Roi Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, édition du vendredi 1er octobre 2021. Jean-Roger Bion à ce micro. Bonsoir à tous. À la une de nos informations. En Guinée, le colonel Doumbouya a prêté serment aujourd'hui comme président de la transition. Il s'engage à ne pas être candidat à de futures élections. Le Mali reçoit 4 hélicoptères et des armes de la Russie. Une livraison qui s'effectue dans un contexte de relations tendues entre Paris et Bamako. Éthiopie, réprobation générale au sein de la communauté internationale après l'expulsion de travailleurs onusiens. Washington menace Addis Abeba de sanctions financières. La lutte contre le Covid dans le monde semble porter des fruits avec la diminution des contaminations. Une compagnie a demandé ici aux États-Unis l'autorisation de commercialisation d'un médicament oral contre la pandémie. Ne manquez pas dans cette session d'information la minute éco et les sports, mais tout d'abord, le journal. Le chef de la junte en Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya, a prêté serment ce vendredi comme président pour une période de transition à la durée et au contenu toujours inconnu. Le colonel Doumbouya, en uniforme d'apparat beige, portant béret rouge et lunettes noires, a prêté serment devant le président de la Cour suprême, Mamadou Sylla, lors d'une cérémonie au palais Mohamed V de Conakry. Le président du CNRD s'est par ailleurs engagé à ne pas être candidat à de futures élections. À chaud, notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara, a recueilli le sentiment de quelques Guinéens.
Le discours est un discours rassurant, donc qui nous donne espoir, surtout quand il a parlé de l'unité nationale et aucune exclusion ne sera faite.
Ça reste à désirer, même si la charte pour le moment peut montrer certes des insuffisances, mais la charte répond vraiment pour le moment aux éléments, aux attentes de la population guinéenne, en tout cas à ma lecture des choses. Donc on espère que Mamadi Doumbouya sera capable à lui et son équipe de veiller au respect strict de la charte.
C'est un espoir de satisfaction pour le moment, mais nous observons, car nous sommes dans la période des discours, des promesses, et sûrement après l'installation du CNT et la composition du gouvernement, les actions vont débuter. Et là, nous pouvons apporter maintenant des critiques et des recommandations.
La réaction de quelques Guinéens après la prestation de serment du colonel Mamadi Doumbouya en tant que président de transition. Nous y reviendrons dans la partie magazine de cette édition. Le Mali a reçu hier soir 4 hélicoptères militaires fournis par la Russie en vantant son partenariat avec Moscou à un moment de grande tension avec Paris. Les détails avec Jacques Aristide.
C'est une livraison qui envenime les relations déjà très tendues avec la France, qui, comme de nombreux pays africains et européens, s'inquiète d'un possible recours du Mali aux paramilitaires du groupe privé russe Wagner. Les 4 hélicoptères flambant neufs ont été entièrement acquis sur le budget national. D'après le colonel Sadio Camara, le Mali a également réceptionné des armes et des munitions, lesquelles ont été offertes par la Russie, ajoute le ministre de la Défense. Pour lui, il s'agit de la concrétisation d'un contrat paraffé à la fin de l'année dernière et entré en vigueur il y a 3 mois. Le colonel Camara souligne que l'extrême rapidité de l'exécution du contrat montre la fiabilité et le sérieux de ce partenaire qui, selon lui, a toujours donné satisfaction au Mali dans le cadre d'échanges gagnant-gagnant. Peu auparavant, le chef de l'État français Emmanuel Macron avait jugé inacceptable les déclarations du Premier ministre malien de transition, Chokel Kokala Maïga, assimilant le 25 septembre dernier à la tribune de l'ONU la réorganisation du dispositif militaire français au Sahel à un abandon en plein vol de son pays. C'est une honte et ça déshonore ce qui n'est même pas un gouvernement, a déclaré le président Macron sur RFI.
Au Tchad, le comité chargé de discuter avec les groupes armés est présidé par l'ancien président Boukouni Wedey a ouvert aujourd'hui les travaux de sa commission à N'Djamena, déclarant notamment que le temps du dialogue est arrivé. Le comité composé de 28 membres, dont plusieurs proches du nouveau chef de l'État et généraux influents de l'armée tchadienne, doit rendre son rapport le 30 novembre. Plusieurs groupes rebelles tchadiens sont basés en Libye, au Soudan ou dans les zones frontalières avec ces pays, parmi lesquels le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, FACT, à l'origine d'une offensive le 11 avril sur N'Djamena qui a entraîné la mort du président Déby. Au Congo-Brazzaville, le général Jean-Marie Michel Mokoko, ancien candidat à la présidentielle de 2016, condamné pour atteinte à la sécurité de l'État, a été remis aujourd'hui en prison. Les gendarmes ont fait irruption ce matin à l'hôpital militaire où le général Mokoko, âgé de 74 ans, était interné depuis une année et l'ont embarqué et reconduit à la maison d'arrêt. Ce n'est pas une décision humaine parce qu'il suivait jusque-là un traitement de kinésithérapie qui est loin d'être achevé, a déploré son avocat maître Yvonne Eric Ibuanga. Les autorités gouvernementales et pénitentiaires ne se sont pas exprimées sur les raisons de cette réintégration. La Centrafrique a reconnu aujourd'hui une partie des accusations formulées en août par l'ONU, notamment sur des crimes et actes de torture commis majoritairement par des rebelles, mais aussi des soldats centrafricains et leurs alliés instructeurs russes, a annoncé le ministre de la Justice. Les responsables de ces incidents sont répartis en trois catégories. Outre les casques bleus, a déclaré vendredi le ministre Arnaud Djoubaï Abalen, les rebelles pour la majorité, les forces de sécurité et les instructeurs russes selon lui. Les forces centrafricaines épaulées notamment par des centaines de paramilitaires russes mènent depuis décembre 2020 une vaste contre-offensive contre des groupes rebelles. Le gouvernement éthiopien a annoncé hier l'expulsion de 7 responsables d'agences de l'ONU accusés d'ingérence. Cette décision alimente les craintes autour de la grave crise humanitaire en cours dans le nord du pays, ravagée par la guerre depuis plus de 10 mois. Claire Morin-Gibou.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit choqué en assurant que toutes les opérations humanitaires des Nations Unies sont guidées par les principes fondamentaux d'humanité, d'impartialité, de neutralité et d'indépendance. Selon des diplomates, une réunion en urgence du Conseil de sécurité de l'ONU est prévue aujourd'hui sur cette expulsion. Les États-Unis et la France ont condamné cette expulsion, Washington affirmant qu'il n'hésiterait pas à utiliser tout outil à sa disposition, en rappelant que les autorités américaines avaient la possibilité de prendre des sanctions financières contre les protagonistes du conflit ravageant le nord de l'Éthiopie. Le ministère éthiopien des Affaires étrangères a déclaré persona non grata 7 personnes travaillant pour diverses ONG internationales en Éthiopie pour ingérence dans les affaires internes du pays, dont l'UNICEF et l'OCHA. Le nord de l'Éthiopie est en proie au combat depuis novembre. Selon l'ONU, 400 000 personnes ont franchi le seuil de la famine au Tigré, mais très peu d'aide humanitaire parvient dans la région. Les combats ont gagné les régions voisines de l'Afar et de l'Amhara, où 1,7 million de personnes sont désormais confrontées à la faim.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La pandémie de COVID-19 a de nouveau ralenti cette semaine dans le monde. Toutefois, le nombre de cas diagnostiqués ne reflète qu'une fraction du nombre réel des contaminations et les comparaisons entre pays sont à prendre avec précaution. Les politiques de tests diffèrent d'un pays à l'autre. Ici aux États-Unis, la compagnie Merck demande l'autorisation de commercialisation d'un médicament oral contre le COVID-19. Les précisions de John Lydon.
457 000 contaminations ont été enregistrées quotidiennement dans le monde cette semaine. L'indicateur a baissé sensiblement, soit moins 11% par rapport à la semaine précédente. Les États-Unis restent de loin le pays ayant enregistré le plus grand nombre de nouvelles contaminations en valeur absolue cette semaine, soit 113 000 cas quotidiens, devant le Royaume-Uni 34 500 et la Turquie 27 700. Le laboratoire américain Merck a fait savoir qu'il va demander l'autorisation de la FDA, l'Agence des médicaments américaine, pour un traitement par voie orale contre le COVID-19 qui réduit de façon significative les risques d'hospitalisation ou de décès. Pour le quatrième jour d'affilée, la Russie a enregistré un record de décès quotidiens avec 887 morts liées au virus lors des dernières 24 heures, selon le bilan publié par le gouvernement. 15 des 54 pays africains ont entièrement vacciné au moins 10% de leur population contre le COVID-19, tandis que la moitié des pays du continent n'en a vacciné que 2% ou moins, a annoncé jeudi le bureau de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique. Plus de 26 millions de doses ont été injectées quotidiennement dans le monde, en moyenne sur les 7 derniers jours.
Un haut dirigeant d'Al-Qaïda en Syrie, Salim Abu Ahmad, a été tué le 20 septembre lors d'une frappe aérienne près d'Idlib, dans le nord-ouest du pays, a indiqué aujourd'hui l'armée américaine.
Il était responsable de la planification du financement. Il était responsable de la planification du financement et de l'approbation d'attentats transrégionaux perpétrés par l'organisation djihadiste, a précisé un porte-parole du commandement central américain, le commandant John Rigsby, sans donner d'autres détails. Il n'y a pas d'indication sur de potentielles victimes civiles consécutives à l'opération, a-t-il ajouté dans un communiqué. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute écho avec Claire Morin-Gibourg.
En Côte d'Ivoire, le gouvernement veut relancer les activités de l'usine Gonfreville, spécialisée dans la production de textiles à Boaké, à travers le programme Champion National, qui vise à soutenir les entreprises locales à fort potentiel. Selon Patrick Hachy, le chef du gouvernement, booster les activités de Gonfreville constituera une bonne opportunité d'insertion socio-économique pour les jeunes qui bénéficieront de l'expérience des anciens. L'usine qui a 100 ans et qui fut la plus importante d'Afrique de l'Ouest est en léthargie depuis une vingtaine d'années. Notation financière en monnaie locale. Le Sénégal a obtenu hier une note d'investissement à long terme de A- et une note d'investissement à court terme de A2 par l'agence Bloomfield, en présence notamment d'Abdoulaye Daouda Diallo, le ministre des Finances sénégalais, du FMI et de la BCAO. La note d'investissement à long terme A- traduit une qualité de crédit élevée, a précisé Bloomfield. Ici aux États-Unis, la bourse de New York a ouvert en hausse ce vendredi, enthousiaste après l'annonce de l'arrivée possible d'une pilule anti-Covid, mais toujours inquiète de l'inflation. Marqué par plusieurs décrochages, le mois de septembre aura été le plus mauvais pour les grands indices depuis mars 2020.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo.
Bonsoir à tous. Wilfried Zaha, Gervinho et Nicolas Pepe font leur retour en sélection en Côte d'Ivoire. Absents en septembre lors des deux premiers matchs de qualification pour le Mondial 2022, ces trois cadres de la sélection ivoirienne figurent sur la liste dévoilée par le sélectionneur Patrice Baumel pour la double confrontation face au Malawi les 7 et 10 octobre à la faveur des 3e et 4e journées. La Côte d'Ivoire est en tête de son groupe. Après son nul 0-0 face au Mozambique et sa victoire 2-1 contre le Cameroun, le Malawi accueillera les Ivoiriens à Johannesburg, en Afrique du Sud. Le match à domicile de la Côte d'Ivoire se jouera à Cotonou au Bénin, faute de stade homologué dans les deux pays. En Espagne, le FC Barcelone a enregistré pour l'exercice 2020-2021 une perte de 481 millions d'euros et des dépenses records estimées à 1,136 milliards d'euros. Selon le club catalan, ces pertes sont près de 2,5 fois plus importantes que ce qui avait été prévu par le club. Pour l'exercice 2021-2022, cette formation espagnole s'apprête à présenter à l'Assemblée des Socios le 17 octobre un budget prévoyant un bénéfice de 5 millions d'euros à la fin de la saison. Le Barça espère obtenir des revenus à hauteur de 765 millions d'euros grâce à la réouverture progressive des installations du club dans le Camp Nou et les boutiques officielles. Ici, en basketball, le Camerounais Joel Embiid, star des Sixers de Philadelphie, reproche au meneur Ben Simmons de manquer de respect à ses coéquipiers. L'Australien veut quitter le club et tente de forcer un transfert. La situation est décevante, c'est à la limite un manque de respect pour tous les gars qui se battent dans l'équipe, comme si leur vie en dépendait, a déclaré Embiid lors d'une rencontre avec les médias. Simmons ne veut plus jouer à ses côtés, estimant que leur association a fait son temps et que de toute façon, l'équipe a été construite autour d'Embiid sans que cela convienne à son style de jeu, selon des propos rapportés par le site The Athletics. Pour l'heure, Simmons est sous contrat pour encore 4 saisons avec les Sixers. L'Agence mondiale antidopage a publié la liste officielle des produits interdits à compter de 2022. Parmi les nouveautés, l'interdiction en compétition de toutes les voies d'administration de glucocorticoïdes par injection. Cette substance controversée permet de reculer le seuil de la douleur et est utilisée à des fins de dopage dans de nombreux sports, notamment le cyclisme. Rien ne change en revanche s'agissant du cannabis. L'AMA avait annoncé mi-septembre qu'elle réexaminerait en 2022 l'inscription du cannabis sur la liste des substances interdites. Cette substance est actuellement interdite en compétition et le restera en 2022, a précisé l'Agence mondiale antidopage. La liste modifiée entrera en vigueur le 1er janvier 2022.
Page de sport signée Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. En Guinée, le chef de la junte a été investi président de la transition. Le colonel Mamadi Doumbouya a prêté serment à Conakry devant la Cour suprême de son pays. Le compte rendu avec notre correspondant en Guinée, Zakaria Camara.
La transition est désormais entre les mains du colonel Mamadi Doumbouya, lui qui a renversé Alpha Condé le 5 septembre dernier. Un coup d'État justifié selon Mamadou Sylla, président de la Cour suprême guinéenne.
Il faut admettre que, dans certaines circonstances historiques particulières, face au désespoir généralisé et à l'impasse politique entraînée par une crise profonde des valeurs républicaines, les forces organisées de la nation, y compris l'armée, peuvent, par un sursaut patriotique, décider de s'insurger et s'opposer à l'illégitimité, à l'absence de démocratie et au risque d'éclatement de l'unité nationale.
La cérémonie s'est déroulée en présence de quelques ambassadeurs accrédités en Guinée et le président de la Cour suprême de profiter pour attirer l'attention du nouvel homme fort de Conakry sur ses nouvelles fonctions.
Le navire en devient capricieux sur une mer houleuse. Puissiez-vous le mener à bon port sans tanguer ni être dérouté du cap vers le rassemblement et le développement par la force des vagues de la démagogie et la tempête du culte de la personnalité.
Après la prestation de serment, le colonel Doumbouya a prononcé un court discours, d'abord pour rassurer les Guinéens.
Le pays s'est doté d'une charte de la transition qui prévoit notamment un gouvernement de transition et un conseil national de transition qui auront la charge de dérouler les différentes missions de la transition. Ces missions se résument essentiellement à la rédaction d'une nouvelle constitution, la refondation de l'État, la lutte contre la corruption, la réforme du système électoral et la refonte du fichier. L'organisation des élections libres, crédibles et transparentes et la réconciliation nationale.
La CEDEAO a suspendu la Guinée de ses instances. La communauté internationale a condamné le coup d'État du 5 septembre. Le président de la transition a prononcé des mots pour la diplomatie guinéenne.
Je réaffirme ici l'engagement du Comité national du Rassemblement pour le développement au nom du peuple de Guinée à respecter tous les engagements nationaux et internationaux auxquels le pays a souscrit.
On ne connaît toujours pas la durée de la transition, mais le colonel Doumbouya assure qu'aucun membre du Comité national du Rassemblement pour le développement ne sera candidat aux prochaines élections en Guinée. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM.
Gros plan à présent sur les groupes d'autodéfense au Burkina Faso, pays meurtri depuis 6 ans par des attaques de combattants terroristes liés au réseau État islamique et Al-Qaïda. Selon des analystes, ces violences sont en train de s'étendre à la région sud du pays. Notre reporter Henry Wilkins a accompagné l'un de ces groupes d'autodéfense lors d'une patrouille pour se préparer à une éventuelle incursion des djihadistes près de la ville méridionale de Bobo-Dioulasso. Son reportage est relaté par Jacques Aristide.
Des chasseurs traditionnels d'Ozo à la recherche de gibier pour subvenir aux besoins de leur famille. Des chasseurs également aux aguets pour protéger leur village. La vigilance a doublé car un nouveau danger rôde dans les parages, celui posé par les djihadistes liés au groupe État islamique et à Al-Qaïda. Blaise Sanou est le chef d'Ozo d'une localité près de Bobo-Dioulasso.
Bon. Ça, c'est ceux qui ont les moyens. Ça, généralement, la plupart des doseaux, c'est le calibre 12. Et avec un calibre 12, peux-tu tirer sur quelqu'un qui se trouve à 300 mètres? Vous voyez, c'est difficile. En tout cas, nous avons non seulement besoin d'une formation militaire.
Des observateurs sont d'avis que les doseaux peuvent incarner un rôle militaire. Mais de tels groupes d'autodéfense sont accusés de prendre la loi entre leurs mains et commettre des exécutions extrajudiciaires.
Pas loin de cet endroit où les dozos patrouillent, des combats ont eu lieu avec des hommes armés inconnus il n'y a pas longtemps. Les djihadistes ont également attaqué des militaires et mené des enlèvements.
Et maintenant, on s'est rendu compte que ce n'est plus un problème de religion. Ce sont des gens qui cherchent quelque chose, c'est-à-dire l'argent, certaines choses, bon, pour pouvoir satisfaire leurs besoins. Et donc, dans ce cas, ils ne peuvent pas l'avoir puisqu'il faut tuer des gens.
C'est connu au Burkina Faso. Les groupes djihadistes se financent à travers l'exploitation illégale d'or, la contrebande de tabac et du carburant, de même que le trafic de drogue. Moins d'un tiers de ces terroristes sont en fait des fanatiques religieux, d'après une estimation. Pour l'expert en terrorisme, Jacob Yaredi Batula, le péril prévaut au-delà des frontières burkinabées.
Je pense qu'il faut situer ce mouvement à l'ouest du Burkina avec donc l'incursion des attaques terroristes en Côte d'Ivoire à Grand Bassam. Et après donc cette incursion, on s'est rendu compte que c'est possible de quitter le Sahel et d'arriver au bord de l'Atlantique pour freiner donc la descente du phénomène terroriste vers l'ouest de notre pays. C'est des actions concertées, c'est le renseignement.
Pour les chasseurs d'Ozo, défendre leur communauté est un devoir. Ernest Afassassanou en est convaincu.
Enfin, chez nous presque, j'ai né d'Ozo. Parce que nos parents même, ils chassaient. C'est un peu un héritage. Mais les d'Ozo, la confrérie d'Ozo, maintenant on l'adhère parce que bon, d'autres pensent que ça vient d'ailleurs. Alors que nos parents, même sans qu'il y avait le nom d'Ozo là, ils continuaient à chasser.
Mais la question qui se pose, comment les d'Ozo peuvent-ils vraiment se défendre vu leur manque d'entraînement militaire et d'armes appropriées?
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
Au Mali, l'orpaillage, un métier reconnu pour les hommes par le passé, est exercé de nos jours par beaucoup de femmes. La pauvreté les pousse à prendre de grands risques dans l'espoir d'améliorer les conditions de vie de leur famille. Mariam Kouyaté, notre correspondante au Mali, est allée à la rencontre de certaines d'entre elles pour découvrir leurs activités et leurs difficultés dans les mines. Reportage.
Dans l'espoir d'obtenir quelques billets de banque pour la suivie quotidienne, Ami Doumbia, âgée d'une trentaine d'années, et d'autres femmes travaillent dans le site d'orpaillage de Balandougou, cercle de Kangamba, à 95 km de la capitale malienne. Cela fait bientôt 7 ans qu'elle exerce ce métier, tirant du fond des puits des seaux remplis de gravier et de terre.
Après que les hommes ont creusé les minéraux, mon travail c'est de tirer des seaux de gravier et de terre. Ensuite, je les malaxe. Je les lave et les tamise afin de récupérer l'or.
Entre espoir et sacrifice, ces mères de famille, veuves, célibataires ou divorcées, ont quitté leurs localités respectives, laissant derrière elles leur famille pour ces sites d'orpaillage. Awasako est mère de 6 enfants. Elle dit n'avoir pas d'autre choix.
Nous n'avons pas de moyens. Ici, les enfants sont à la charge de leur maman. Les frais de scolarité, la ration alimentaire, les frais médicaux sont tous à notre charge. Nous ne partons pas dans ces endroits par plaisir, mais plutôt par nécessité.
Elles sont plus de 200 femmes sur ce site d'orpaillage de Balandougou dans le cercle de Kangaba. Elles occupent une place prépondérante dans l'extraction de l'or. Cependant, leurs revenus sont minimes dans ce métier, Awasako explique.
C'est nous qui tirons les seaux remplis de gravier et de terre du fond des puits. C'est également nous qui maximisons cette matière première. Mais avec tout cela, nous gagnons seulement que des miettes.
Sur ce site d'orpaillage, ces femmes font tout pour gagner de l'argent. Elles sont exposées à tout genre de dangers, y compris les maladies, la consommation des stupéfiants, l'adultère et le concubinage. De nouveau, Awasako.
C'est très dangereux pour une femme de travailler dans les mines. Elles sont beaucoup ici. Des femmes mariées qui vivent en concubinage, laissant derrière elles leur mari et leurs enfants juste pour de l'argent.
À Kangaba, la grande ville voisine, les femmes s'adonnent traditionnellement au maraîchage. À cause du manque d'eau, elles sont plusieurs à s'être tournées vers l'activité minière, bien que celle-ci soit pénible. Beaucoup sont prêtes à quitter les mines si seulement les conditions leur permettaient de reprendre leurs activités de maraîchage. Maria Makuyateba Mako pour VOA Afrique.
Le Congrès américain a évité de justesse une fermeture du gouvernement en votant hier un budget qui permet aux agences fédérales de rester ouvertes jusqu'au 3 décembre. Mais les démocrates qui ont une courte majorité à la Chambre et au Sénat n'arrivent toujours pas à s'entendre sur un vaste plan d'infrastructure de 1 000 milliards de dollars, un projet phare de l'administration Biden qui pourrait tomber à l'eau si les démocrates modérés et progressistes ne trouvent pas un terrain d'entente. Pour une analyse, Abdourahman Diah, joint à New York, Mohamed Mboj, professeur à Manhattan College.
Il est en tout cas ce qu'on peut appeler assistance respiratoire pour utiliser un terme médical courant. Il n'est pas sûr qu'il survive. Il a de fortes chances qu'il survive, mais disons que si les deux parties s'arc-boutent sur ce qu'ils appellent des positions de principe et non pas des positions de pragmatisme, s'il bouge vers le pragmatisme, ça va passer. Mais s'il reste sur les positions de principe, ça risque de ne pas passer. Voilà.
Alors, est-ce qu'on peut dire un peu que c'est un peu le signe des temps, avec des visions différentes très marquées au sein d'un même parti? Et pour ce cas-ci, il s'agit des démocrates, d'un côté les modérés, d'un autre les progressistes, qui veulent plus d'investissements sur le social.
Oui, tout à fait. C'est un signe que les partis traditionnels ne tiennent plus leurs troupes en ordre de bataille, comme cela était dans une sorte de tradition républicaine. On s'acharne quelquefois dans ce que chez nous on appelait des luttes de clans. Donc, mais en fin de compte, et à la dernière minute, et d'une certaine manière, tout le monde pense, savait que on allait voter quelque chose, et en particulier le président était un peu l'arbitre, étant le chef du parti, même s'il n'y a pas de notion de chef de parti aux États-Unis, mais président ici Biden est le chef de parti qui va rabibocher les uns les autres en fonction de ce qu'il considère comme l'intérêt supérieur de la nation et bien entendu aussi l'intérêt électoral du parti démocrate.
Quel message le démocrate lance-t-il à l'électorat en vue des élections de mi-mandat s'il n'arrive pas à s'entendre?
D'abord, ils veulent que les votes soient comptés et qu'on puisse dire dans la campagne électorale, un tel, en principe un républicain, n'a pas voté pour vous donner donc l'internet rural, n'a pas voté pour reconstruire un pont qui s'écroule, n'a pas voté pour vous donner l'accès gratuit aux médicaments, etc., etc. Donc c'est une arme de bataille, même si le texte échoue, qu'ils veulent utiliser contre les républicains.
Mais ils peuvent en payer le prix aussi s'ils n'arrivent pas à faire passer ces lois.
Bien entendu, ils peuvent en payer le prix parce que d'une part les gens vont dire oui. Mais si vous avez une majorité démocrate dans la Chambre et un président démocrate et que vous n'êtes pas capable de faire passer une loi, pourquoi devons-nous vous faire confiance?
C'était Mohamed Mboj, joint à New York.
Participez à notre magazine interactif à votre avis du lundi au vendredi à partir de 18h CU sur VOA Afrique. Donnez votre opinion sur tous les sujets sans tabou, politique, société, culture et bien plus encore. Vous pouvez même suggérer des thèmes sur notre page Facebook. À votre avis, l'occasion de vous exprimer librement du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique et voaafrique.com. À votre avis, c'est votre rendez-vous interactif au quotidien sur VOA Afrique.
Le Monde Aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute la rédaction et à notre équipe de production. Jean-Roger Billon à ce micro. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.